Denis Martin Chabot est en studio avec nous pour nous livrer sa chronique Arc-en-ciel d'été. Bonjour, Denis Martin.
Bonjour, Hélène.
Alors, permettez-moi de vous souhaiter un très joyeux anniversaire, une journée en retard,
ben,
parce
c'est
que
gentil,
c'était hier.
C'est gentil. Alors, pour ceux qui veulent le savoir, j'ai 61 ans, je suis né en 61, donc ça fait 61.
Année chanceuse.
Ouais. Puis en fait, je dis habituellement 40 et 21. Hein, c'est moins compliqué. Bon, allez, on arrête les folies.
Alors, Denis Martin, à votre chronique aujourd'hui, nous parlons du manifeste de Montréal.
Et librement à de l'information et des outils de prévention, incluant les méthodes barrières et pharmaceutiques, à de l'information et au matériel de réduction des méfaits, ainsi qu'un approvisionnement sûr en drogue. Le maintien d'une charge virale du VIH est détectable. Doit être reconnu comme une méthode de prévention efficace, en plus d'être bénéfique à la personne vivant avec le VIH.
Ce que vous venez d'entendre, c'est un extrait du manifeste de Montréal, mis à jour et dévoilé hier en marge de la Conférence internationale du SIDA-AIDS 2022, qui se tient à Montréal à compter de vendredi. Et Denis Martin, il s'agit d'un événement important hier en préparation du congrès formel.
Ah oui, il y a beaucoup de monde hein, à Montréal présentement. Alors, je vous retourne en 1989, c'était le 5e congrès annuel, la grande conférence internationale qui accueille les plus grands et les plus grandes scientifiques du monde. Ça a lieu à Montréal, c'est la première fois que le Canada est l'hôte de cette conférence. Alors, reculons en 89 pour ceux qui étaient au monde à ce temps-là, sinon on va vous rappeler des choses. Premier ministre d'alors, Brian Mulroney, conservateur, allait prononcer le discours d'ouverture de cet événement prestigieux. Là. C'est prestigieux, là, ce congrès-là. Mm-hmm. Or, Mulroney n'avait pas, jusqu'alors, jamais publiquement mentionné le mot SIDA.
En 89.
Ah, on est en 89 et on a connu ça aussi. Hein, je peux vous donner le président américain Ronald Reagan et la première ministre britannique Margaret Thatcher qui n'ont eux aussi jamais prononcé le mot et pas fait grand-chose pour combattre ce virus qui s'en prend alors surtout à des populations détestées, les homosexuels, les utilisateurs et utilisatrices de drogue par injection et j'irais même jusqu'à dire l'immigration haïtienne. Alors, on sait que Ronald Reagan n'a pas prononcé le mot « sida » dans le discours public jusqu'à temps que Rock Hudson en meure. Alors, voilà. Donc, 89, des activistes, principalement des personnes vivant avec le VIH de ACT UP, que vous connaissez peut-être par le film 120 battements par seconde, ça existait aussi dans le coin ici.
Excellent film.
AIDS Action Now investissent le Palais des Congrès et l'un d'eux, j'ai eu l'occasion de rencontrer hier, Tim McCaskill, se retrouve tout à coup sur la tribune principale. Alors écoutons, c'est en anglais, je vais vous le traduire après, mais il faut vraiment entendre ce militant, puis je vais vous traduire ça.
The next thing I knew, we were all on the main stage without a plan, and everybody was waiting for the Congress to the conference to start, but it couldn't start because we were on the stage and the Prime Minister couldn't get on the stage. And so someone gave me a mic and I officially opened the Congress on behalf of people living with AIDS and HIV.
Alors, Tim McCaskill raconte qu'après avoir forcé les portes, un groupe de manifestants s'est retrouvé sur la tribune principale. Alors, la conférence ne peut pas commencer, car le premier ministre Mulroney, ben, il peut pas monter sur scène, on comprend, pour prononcer son discours. Alors, Tim a pris le micro, puis a ouvert la conférence à la place de Mulroney, et a fait ça au nom des personnes vivant avec le VIH.
Alors ça, Denis Martin, ça a été un point tournant dans l'histoire du SIDA.
Tout à fait. À partir de ce moment, il était devenu clair que les personnes vivant avec le VIH vont prendre leur place dans la recherche et dans la réponse ou la non-réponse des gouvernements. Les militants rédigent et présentent un document qui contient leurs demandes, ce qu'on appelle le Manifeste de Montréal, qui va devenir la base là, des revendications pour les personnes vivant avec le VIH partout dans le monde, sur l'accès au traitement, parce qu'il y en avait très peu à l'époque, hein, aux médicaments expérimentaux, la sécurité alimentaire, de logement et la fin de la discrimination. Alors, la Coalition des organismes communautaires du Québec de lutte contre le SIDA, qu'on appelle en jargon la COC-SIDA, a décidé de profiter de la tenue de la Conférence mondiale à Montréal, qui est la 24e maintenant, parce que pour eux, le montant était propice pour mettre à jour ce document. Il faut vous dire que les choses ont changé depuis 89. Alors, depuis un an, il y a une vaste consultation auprès de personnes vivant avec le VIH et des organismes communautaires ici et dans le monde. Et je vous présente donc Ken Monteith, qui est directeur général de la COC-SIDA.
Mais depuis 1989, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et donc, on peut penser, c'était 7 ans avant les traitements efficaces. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Et ça, c'est vraiment à la honte de notre société de ne pas avoir changé les éléments portant sur les droits des personnes.
Alors, quels éléments particulièrement n'ont pas été changés et devraient être changés?
Et c'est vraiment les questions d'équité dans le monde, les questions des droits de la personne, surtout le droit contre la criminalisation pour les personnes, les travailleuses du sexe, les personnes qui utilisent les drogues, l'homosexualité dans beaucoup de coins dans le monde, mais aussi la criminalisation ici au Canada de la non-divulgation du VIH.
Et ça, c'est quand même grave. Le Canada est vraiment tire de l'arrière sur beaucoup d'autres pays dans le monde.
Oui. Donc, il y a certaines choses où on est d'avance, d'autres où on est carrément derrière. Mais on doit avancer partout dans le monde en même temps.
En 89, c'était un monde très difficile. C'était un monde où les personnes vivant avec le VIH n'avaient pas leur mot à dire. Ils ont décidé que c'était assez. Quelqu'un a pris le micro. Est-ce que, après toutes ces années, est-ce que les choses se sont améliorées pour les personnes vivant avec le VIH?
Il me semble qu'on commence à oublier qu'il doit y avoir une place à la table pour les personnes vivant avec le VIH. Donc, les années de COVID nous ont démontré que c'est trop facile pour les autorités de santé publique de nous mettre à côté et de faire ce qu'ils veulent. Donc, nous sommes là pour les rappeler qu'il faut nous inclure. Nous faisons partie de la réponse et une partie de la solution.
Alors, cette nouvelle déclaration de Montréal, qu'est-ce qu'elle a de nouveau que l'autre déclaration n'avait pas?
Je vous encourage à le lire.
Évidemment.
Évidemment. Mais il y a beaucoup de choses sur... donc, il y a le concept de I égale I, indétectable égale intransmissible, qui n'existait pas. Il y a les questions de la PrEP, qui n'existait pas. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça au niveau des traitements médicaux.
Il a l'air vraiment sympathique, cet homme. Belle rencontre pour vous, Denis Martin. Hein? Il est touchant quand
oui,
on l'écoute.
C'est une personne adorable, une personne vraiment, vraiment très, très gentille. On l'aime tout le monde quand on le rencontre, oui.
Alors, avant d'aller plus loin, j'ai entendu des mots, des concepts qu'on devrait expliquer. D'abord, M. Monti a parlé de I égale I.
Oui, alors c'est un concept qui est très connu dans les communautés VIH, mais très peu connu dans la population en général. I égale I, c'est pour indétectable égale intransmissible. Ça vient du fait que, vous savez qu'une femme enceinte vivant avec le VIH, quand on lui donne le traitement efficace qui fonctionne, qui, elle, devient indétectable, elle ne donnera pas naissance à un enfant séropositif. Écoute, c'est démontré, ça fonctionne, c'est largement documenté. Alors, c'est aussi vrai dans le contexte d'une relation sexuelle. Alors, moi, je vis avec le VIH depuis 2004, comme tu sais. Mm-hmm. Je prends des médicaments antirétroviraux et ma charge virale, elle est indétectable. Donc, il n'y a pas de transmission du VIH, même lors d'une relation sexuelle sans préservatif.
Et la PrEP?
La PrEP, alors ça, c'est un médicament qu'on peut prendre quand une personne séronégative a l'intention d'avoir des rapports sexuels et qu'elle veut se protéger. Alors, elle prend ce médicament qui empêche la transmission du VIH, même s'il n'y a, a pas de port du préservatif dans la relation sexuelle.
On se rend compte qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Alors, donc, ça se trouve dans le manifeste mise à jour.
Oui, alors l'accès universel au traitement, incluant les médicaments, l'accès gratuit et disponible. C'est beau de dire que l'accès est gratuit, mais il faut bien le trouver aussi. Mm-hmm. Et puis, l'accès gratuit, ça inclut l'accès à un médecin, parce qu'on ne peut pas juste prendre des médicaments et pas être suivi. Alors, moi, je vais vous donner un exemple, comment ça peut être cher. Un traitement antirétroviral, dans mon cas, je prends le Biktarvy de la pharmaceutique Gilead. Alors ça coûte 1395 $ par mois.
Ouais.
C'est couvert par les assurances médicaments, mais il y a souvent des franchises à payer. Alors c'est environ 139 $ par mois dans certains cas. 139 $ par mois quand on ne gagne que le salaire minimum ou très peu, quand on sait qu'il faut payer le loyer, l'épicerie, il faut s'occuper des enfants, bien souvent on doit choisir entre une commande d'épicerie ou les médicaments.
Ouais, genre entre crever de faim ou crever tout court?
Bien, il y a une expression plus vulgaire que ça, si je me le permettre, c'est comme avoir une claque sur la gueule ou un coup de pied au derrière.
Oui.
Excusez-moi, mais
l'image,
fois,
est, forte,
l'image
mais
est forte, mais ça dit ce que ça dit.
Ça dit ce que ça dit, oui.
La PrEP, moi, vous savez que je suis pas très fort dans les concepts aseptisés, alors...
On aime ça comme ça.
Alors, la PrEP, c'est aussi une franchise de 90 à 100 $ à chaque fois. Alors, c'est déjà un problème pour ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus. Avoir accès à un médecin, je vous l'ai dit, un médecin de famille avec l'appui psychologique, bien ça, au Québec, là, c'est un gros problème. Alors, le nouveau manifeste reconnaît aussi que la recherche médicale doit inclure les femmes et les minorités. Alors, à nouveau, je vous propose d'écouter Ken Monteith.
Mais aussi, on parle de l'inclusion dans la recherche afin de permettre de tirer des conclusions par rapport à des populations qui sont traditionnellement sous-représentées dans la recherche.
On parle donc des personnes plus marginalisées, des personnes racisées, des personnes...
Les femmes.
Les femmes, surtout, oui.
Donc, les femmes, les minorités ethnoculturelles, qui sont souvent... Donc, souvent, la recherche dans le passé a été faite avec les jeunes hommes blancs en santé. Et donc, qui ne permettait pas de dire, est-ce que ça fonctionne pour les femmes? Est-ce que ça fonctionne pour les personnes issues de l'immigration? On ne pouvait pas le dire. Donc, nous, on fait l'appel d'inclusion.
Pourquoi ces revendications?
Bien, Hélène, le VIH, c'est toujours et encore une pandémie. Hein. Les gens ne se rappellent pas, mais c'est la première pandémie jamais déclarée par l'OMS. Et contrairement à l'autre qu'on a connue récemment, la COVID, bien, on n'a toujours pas de vaccin, puis on n'a pas de traitement curatif. Dans certains coins du monde, on en meurt encore. Je peux vous parler de l'hémisphère sud, où l'accès aux traitements efficaces et au dépistage et à tout, c'est très difficile. L'ONU SIDA a donc établi des objectifs pour éradiquer le SIDA d'ici 2030, quand même dans 8 ans.
Mm-hmm.
Et pour y arriver, on doit assurer bien plus que tout le monde ait accès à une pilule. C'est pas juste la pilule là, qui va gérer le problème. Il faut faire du dépistage anonyme, des approches non stigmatisantes. Et ça, là, on est bien loin du but, tant au Canada qu'au Québec. Je vous propose d'écouter là-dessus le docteur Jean Robert, qui a été un pionnier, une personne absolument géniale, là, et que j'aime beaucoup d'ailleurs dans le domaine du sida. On l'écoute.
Le dépistage, ça ne sert pas essentiellement à trouver des cas. Ça sert à promouvoir l'absence d'infection et le maintien de cet état-là. Plus on fait de tests de dépistage, moins on trouve de cas de VIH, meilleure fut notre prévention. Et il faut avoir l'humilité de reconnaître que quand, par hasard, on découvre un cas, c'est pas de la faute de la personne, c'est notre faute, c'est notre prévention qui a échoué. Alors, on a une grande leçon d'humilité et de modifier le message. C'est pas pour trouver des cas comme la police cherche des voleurs, c'est de faire la promotion de l'absence. Parce qu'il y a un motif très simple. S'il n'y a pas de virus, on peut faire n'importe quoi, on ne l'attrape pas.
Et quel est l'obstacle principal, justement, au dépistage?
Alors, après une longue expérience, l'obstacle principal, c'est l'absence de dépistage sous code d'anonymat. C'est la crainte d'être victime de la stigmatisation systémique, de dire, mais qu'est-ce qui va se passer après au point de vue de l'emploi, au point de vue financier, au point de vue de la qualité de vie, au point de vue de la famille? Et c'est ça. Donc, l'anonymat est essentiel et c'est une exigence à laquelle il faut répondre si on veut permettre à tout le monde d'avoir un dépistage et que le résultat lui appartienne, n'appartient pas ni au gouvernement, ni à tout organisme, ça appartient à la personne.
Parce que autour de tout ça, il y a toujours le problème de la stigmatisation, c'est-à-dire la sérophobie, c'est-à-dire le rejet des personnes qui vont passer ce test pour toutes sortes de raisons. Là.
Oui, tout à fait, mais la première stigmatisation ressentie par les personnes qui se présentent au dépistage, mais moi, là-dedans, où est-ce que je me situe? Les gens se sentent coupables parce qu'ils entendent les messages publics qu'on donne. Hein? Vous avez pris des risques. Hein? On travaille sur la diminution des risques. Bien, le risque, c'est le virus et non le geste que les gens posent. Le risque, c'est le virus. Point final.
Le risque, c'est le virus. Point final.
Ouais, ça dit tout. Écoute, je fais une parenthèse qu'on a un petit peu de temps. Moi, je me rappelle lorsque j'ai donné une entrevue à la télévision pour parler de moi, quand j'ai fait un coming out comme personne vivant avec le VIH, j'ai eu cette question 3 fois dans l'entrevue. Comment as-tu attrapé le VIH? C'est une question que je trouve inutile. C'est une question qui stigmatise parce qu'évidemment, on peut à ce moment-là décider que quelqu'un qui a eu le VIH par une transfusion sanguine, c'est une personne qui l'a obtenue d'une façon noble et une personne comme moi qui l'a probablement obtenue par une relation sexuelle non protégée ou peut-être quelqu'un qui a pris de la drogue, cette personne-là, donc l'a mérité. Et il faut sortir...
Tu l'as cherché.
Il faut sortir ce discours-là. Alors, quand on parle de dépistage anonyme gratuit, là, c'est pas nécessairement d'avoir à aller chez le médecin aussi. Ça devrait pouvoir être disponible dans des groupes communautaires il faudrait que ces dépistages-là soient offerts d'une façon non stigmatisante. Il faut sortir le stigma du VIH. Il faut aussi rendre les médicaments disponibles, les rendre faciles d'accès, éliminer les barrières. Moi, je connais beaucoup d'organismes VIH où des gens ne veulent pas y aller pour ne pas être identifiés, ne pas être vus se présentant à la porte d'un organisme VIH. À ce point, et on peut comprendre quand on connaît les discriminations qui viennent avec. Il y a aussi des autotests pour le VIH. Ça, vraiment, je trouve ça surprenant. J'ai appris ça hier. Alors, comme pour la COVID, il y a des autotests qu'on peut s'administrer soi-même. Et au Canada, ces tests-là ne sont pas disponibles comme pour ceux de la COVID.
Ah non.
Il faut absolument passer par un médecin et avoir une ordonnance pour ça.
Et puis, au-delà de ces barrières à l'accès, qu'est-ce qui manque, Denis Martin?
Bien, il y a plein d'autres... C'est comme pour toute maladie. Rappelez-vous que la COVID affecte encore et toujours plus les personnes qui ont des déterminants sociaux plus difficiles. Alors, c'est la même chose pour le VIH. Alors, parmi ceux-ci, bien, le VIH, c'est vraiment pire pour les personnes défavorisées. Moins on a de revenus, moins on a de ressources, évidemment, plus on doit faire des choix difficiles, puis on voit un peu où ce qui s'amène. La pauvreté, c'est probablement le déterminant social le plus important. Comment une personne vivant avec de faibles revenus va réussir à payer son loyer, sa nourriture, se vêtir et prendre son traitement ou encore la PrEP? Et ces populations-là sont surreprésentées dans les statistiques, comme c'était le cas pour la COVID.
Ouais.
L'accès à un logement abordable, ça devient de plus en plus un problème. La sécurité alimentaire, être entouré, les gens ont besoin d'être entourés, ne pas être isolés, besoin de soutien psychosocial. Moi, je me rappelle, quand j'ai eu mon diagnostic, ça existait. On m'avait donné une psychologue et puis j'ai été entouré de nos jours. Quand on te donne une pilule, tout va bien aller, mon grand, fait que tu peux retourner chez toi. Ce n'est pas toujours tout le monde, et je vais le dire, c'est pas tout le monde qui a la même résilience que moi j'ai. Et d'autres personnes n'ont pas cette résilience-là, ont peut-être d'autres enjeux de santé aussi qui sont collatéraux et qui doivent être pris en compte.
Ils ont besoin de ressources.
Tout à fait.
Alors, si on revient au manifeste de Montréal, il arrive quoi maintenant?
Bon, alors, le texte sera distribué au monde entier. J'ai trois exemplaires ici dans trois langues, alors en français, en espagnol et en anglais, du manifeste qui est publié donc par la Coxidone, mise à jour, qui va être distribué à tout le monde pendant le congrès, mais en fait à tout le monde sur la planète via les réseaux sociaux, les internets et tout. Et l'idée, c'est aussi de le faire signer par le plus de monde possible d'ici le 1er décembre et rappeler au gouvernement, aux politiciens, qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis le VIH. Si cette pandémie existe encore 41 ans plus tard presque, il y a quelque chose qui a flanché là-dedans. Comment ça se fait qu'on n'a pas mis les ressources nécessaires pour trouver des médicaments, trouver un traitement au début? Là, cette maladie a pris, ou ce virus a pris plein de tournures et est très difficile à traiter. Mais il y a de l'espoir, puis je vais quand même dire ça parce que je vais à la conférence en fin de semaine. On sait qu'il y a des groupes qui travaillent très fort pour trouver un traitement curatif et qu'on arrive probablement proche d'une solution beaucoup plus vite qu'on le croit.
Vous incarnez l'espoir aussi, Denis-Martin Chabot.
Merci.
Alors, merci beaucoup pour cette... excellente chronique. Ça a été un vrai plaisir de travailler avec vous.
Oui.
Et puis,
oui.
Vous allez continuer hein, à
oui,
la barre.
Je pense qu'on peut l'annoncer à compter.
Je sais pas.
Ben, je pense que oui. À compter de septembre, je vais animer une émission ici à Vue et Voix. Si on a un petit peu de temps, je vais l'annoncer. Oui. J'annonce donc que je vais animer une émission à Vue et Voix qui va s'appeler L'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ça va être la première émission pan-canadienne sur les questions et les enjeux des communautés de LGBTQIA+. Donc, c'est un grand, grand, grand acronyme pour dire les gens de la diversité des orientations sexuelles et des affirmations de genre.
Mais félicitations.
Je suis très content. C'est un honneur de faire ça. Et puis, je fais une petite plug. Ça faisait le temps en fin de semaine. Moi, je suis très occupé. Hein, j'anime un spectacle qui s'appelle Le Grand Effeuillage littéraire. Alors oui, ça dit ce que ça dit. Et c'est
ça dit ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit exactement?
Ben, on va enlever nos feuilles et nos vêtements.
Donc, tout
ça
en
se
même
passe
temps.
À la Comédie de Montréal ce dimanche à 21h30. Je vous invite à venir voir ça avec le collectif Nu. Beaucoup d'artistes très intéressants qui vont se présenter avec leur plus simple habit. Et n'auront que leurs mots pour se couvrir. Alors, c'est un concept très intéressant.
Et puis, vous serez de retour la semaine prochaine,
oui.
Cette fois avec ma collègue Danielle
Rioux,
qui sera l'animatrice d'Au quotidien pendant mes vacances. Merci beaucoup, Denis Martin.
Un plaisir.
Je suis contente d'être votre collègue officiel. Vous l'avez annoncé officiellement.
On l'a annoncé, là.
À la rentrée, puis que Canal M soit... hein, en quelque sorte, une station de radio pionnière en la matière.
Oui, et puis je trouve que la marque de confiance que me fait Canal M me touche énormément et j'espère que je vais être à la hauteur des attentes.
J'en suis convaincue. Merci beaucoup.
Merci.